Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes et remercier le Seigneur. Alléluia. Glorieux Père Céleste, de tout cœur nous te remercions parce que de ta fidélité, tu nous appelles toujours au rendez-vous. Et avant même qu'on soit ensemble, tu étais déjà là. Toi-même, tu as dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, dans ce merveilleux nom qui est Jésus-Christ, tu es au milieu d'eux. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité et pour ton amour. Gère encore nos vies. Sanctifie-la à travers ta parole, à travers ton précieux sang, en nous pardonnant nos fautes, en bénissant encore ton nom à travers nous et donne-nous encore du tien. Nous sommes à la fin, tu le sais, et on vit les temps de la fin. Et nous voulons vraiment être avec toi, arriver à cet objectif, là où tu nous as appelés, là où tu nous as destinés. Merci Seigneur, bénis ta parole encore ce soir, ce que nous allons lire, donne-nous vraiment la force pour pouvoir continuer sur le chemin. On est vraiment à la fin et certainement les forces doivent être renouvelées. Et toi Seigneur, tu nous l'as promis, que tu vas toujours renouveler jour après jour, tu seras avec nous. En renouvelant nos forces. Nous te remercions, nous t'adorons. Bénis encore ceux qui vont venir. Bénis les familles qui écoutent. Les frères, les sœurs. Que tu puisses vraiment bénir les cœurs et donner à chacun ce dont il a vraiment besoin. Nous te donnons gloire, honneur et adoration dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur soit remercié. Alléluia. Vous savez qu'on était resté à la page 18, disons, en italien. Mais d'abord, j'aimerais dire que j'ai imprimé encore des... Donc je vous dis d'abord ça, j'ai imprimé une brochure. Donc donne-moi une brochure ici, voilà. J'ai fait 40 copies. Donc j'ai dû diviser aussi ça, aussi pour le frère Bruno, pour qu'il comprenne. Donc j'ai divisé en deux brochures parce que c'était trop gros. Donc c'est un bon morceau et je crois que le Seigneur va aussi nous bénir. Et il va toujours plus nous renforcer dans la foi, dans la connaissance de la parole juste, de sa volonté. Donc ce sont des extraits de la circulaire et des écrits de frère Franck regardant le thème du mariage, du divorce, la position de l'homme, la position de la femme et toutes ces choses-là. Et donc, ça a été traduit en italien. Bien sûr, il y aurait quelques erreurs grammaticales, mais il y a peu d'erreurs, ce sont des erreurs de traduction automatique. Mais vous qui connaissez l'italien, vous allez les voir facilement, vous allez comprendre facilement, il n'y a pas de gros problèmes. Sinon, on va commencer à perdre beaucoup de temps pour corriger, remettre tout en page, éditer tout cela, ça prendra beaucoup trop de temps. Tandis que maintenant, on l'a comme ça, et au fur et à mesure qu'on va voir les erreurs en italien, il n'y a pas de problème, on va les corriger, et vous les corrigerez vous-même. Voilà, maintenant on va finir ici, en fait, ce qu'on voulait faire sur les anciens, moi qui ai encore d'autres choses... Donc il y a aussi des questions et des réponses. Vous pouvez bien sûr poser des questions, comme Frère Brand faisait. Et nous tous, nous pouvons apporter des questions. Si nous avons quelque chose à dire, il y a vraiment la liberté. Donc le mercredi, donc maintenant le jeudi, ça fait exprès. Le jeudi, le dimanche... Ce sera un peu différent, mais le jeudi, ce sera un peu plus pour lire. Voilà. Donc je suis encore avec le mercredi. Maintenant, on va faire ça jeudi. Donc ça faisait depuis 2005. Qu'on a toujours fait les réunions le mercredi. On a ajouté un autre jour. Mais on n'a jamais changé le jour du mercredi. Mais maintenant, aujourd'hui, maintenant, à cause des événements qu'il y a devant nous, on ne va plus changer ce jour-là. Quoi qu'il en soit, on est ici. Et on va continuer comme le Seigneur nous fait aller de l'avant. Alors, je voulais lire. Je voulais la lettre circulaire de 1572. Donc ici, maintenant, c'est le frère Franck qui parle. Ce n'est plus le frère Livel, c'est le frère Franck. Comme ça, vous savez que c'est le frère Franck qui a écrit. Hein. Donc c'est la page 19 en italien. Donc ces derniers mois. Voilà, donc c'est la circulaire de septembre 72 concernant l'établissement des anciens. Question-réponse. Ces mois passés, le Seigneur m'a montré la nécessité de présenter à la lumière des Écritures les fondements pour l'édification de la communauté. Parmi les frères, il est fréquemment demandé comment quelqu'un peut-il savoir s'il est appelé à prêcher et quels sont ses devoirs dans le royaume de Dieu. Comment les anciens sont-ils situés et quelles conditions doivent-ils remplir? Intentionnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas traité de ces questions parce que je n'avais pas reçu du Seigneur que la tâche d'aller de ville en ville pour y proclamer la parole révélée de Dieu. Je n'ai pas reçu l'ordre de fonder des communautés ni d'établir des anciens. J'ai le sentiment qu'il ne sortira pas de nouveau dogme de cette dernière et ultime proclamation de la parole, mais bien le corps de Jésus-Christ dans son ensemble, lequel sera enlevé. Cependant, en considérant les églises existantes, je ne peux me soustraire à la responsabilité de proclamer tout le conseil de Dieu. L'ordre pour l'édification de l'église en fait partie, et je me dois de démontrer comment les différents ministères, services sont à l'œuvre de la communauté. Donc le frère Franco raconte que depuis les années 70, il a suivi tout cela, et il a vu que beaucoup de frères ont dévié de ces choses qui avaient déjà été enseignées depuis les années 70, même avant. Je continue à lire. L'Église de Jésus-Christ, frère Franck écrit. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation humaine, mais bien une création de Dieu. Christ a dit, et moi je te dis que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La naissance et la fondation de l'Église, l'Assemblée de Jésus-Christ, vient d'un acte de Dieu. Son Église est uniquement placée sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Nous savons très bien que c'est pour cette dernière fois qu'on va lire. Bien sûr, chacun pourra continuer à lire chez lui. Mais ici, ensemble, ce sera la dernière fois qu'on va lire ça. Mais quelque chose reste. C'est que l'Église de Jésus-Christ est conduite uniquement par le Saint-Esprit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et des fois, on oublie. Donc, il y a des situations où, difficiles un peu, parmi les frères, dans la communauté, et qui nous font douter que l'Église, on croit que c'est l'homme qui fonde, mais par le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Donc, ça, c'est important. Son Église est uniquement fondée sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Les interprétations et les dogmes des hommes n'y ont aucune place. Le modèle nous en est donné dans la fondation et l'édification de la première Église chrétienne telle que cela nous est rapporté dans les Écritures. Vous savez très bien que, quand vous lisez Actes 2, là où est née la première Église, à la Pentecôte, ensuite nous lirons aussi Actes 11, etc. On peut aussi lire dans Exode 12, où le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte, parce que c'est là que ça commence, parce qu'une église, c'est comme appelé à sortir, à se rassembler. On sort du péché, des dominations, on sort de ces choses-là, et on se rassemble sous la guide du Saint-Esprit. Donc, on est appelé sous la guide de Dieu pour rester dans la parole de Dieu, pour être sanctifié dans la parole de Dieu. Donc, si vous voulez, on va lire Acte 11, 26. Commençons par lire Acte 11, 26. Donc ici, on va parler de la naissance. Même si à la Pentecôte, il y a eu le tout début, le commencement, le fondement. Donc le fondement des apôtres et des prophètes, le commencement de l'Église, donc de du Nouveau Testament. On peut lire Acte 11. Donc verset 26. Donc je vais commencer, pour bien comprendre, on va commencer au 19, pour voir ce qui s'est passé lors de la première église, le premier rassemblement, après la Pentecôte, après que les 120, que Pierre, etc. Et puis il y a eu 3000, et puis 5000, etc., etc. Donc il y en a beaucoup qui sont venus à la fois, et après, petit à petit, on arrive au verset 19, ici, dans Acte 11, 19. Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation, qui arriva à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. C'est-à-dire au début. Ils annonçaient la parole de Dieu. Maintenant, on arrive petit à petit, on continue. Vous lisez vous-même le reste, mais on arrive au 25 ici. Et ils, Barnabas, donc ils sont allés à... Et ils s'en allaient à Tarse, donc Barnabas. Et ils s'en allaient à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Et ce fut à Antioche, premièrement, que les disciples furent appelés ou furent nommés chrétiens. Donc, on peut dire que tous ses frères, à cause de la tribulation là qu'il y avait, à l'occasion de Stéphane, donc ils sont partis et ils se sont rassemblés là. Bien sûr, ils étaient déjà convertis, on peut dire, au temps de Pierre. Hein. Donc, il y a eu tous ces frères-là, etc., qui ont, les apôtres qui étaient là et qui ont géré l'affaire. Mais ensuite, ils se sont réunis pendant une année tout entière. Et ils ont été enseignés à une grande foule, un grand peuple a été enseigné. Attention, la communauté en deux mots. Donc je dis ça à l'avance et puis on va lire ça plus tard. C'est fait de ceux que le Seigneur récupère, on va dire. Des frères que le Seigneur récupère ou rassemble. Donc ceux que le Seigneur a rassemblés. Pas seulement ceux qui viennent, mais aussi, bon, il y a des nouveaux aussi qui s'ajoutent et qui forment cette église. Et puis, on voit le ministère d'apôtres, comme Frère Franck va aussi l'expliquer un peu plus tard. Donc les apôtres qui viennent dans une ville, pas seulement les évangiles. Donc, il y a ceux qui sont déjà évangélisés, mais aussi à des nouveaux, ils parlent aussi à des nouveaux. Et puis, ils fondent, ces apôtres, des églises, des communautés. Donc ça, c'est important. Parce que là, c'est le commencement d'une assemblée qui est née là, à Antioche. Donc, et puis, plus tard, au chapitre 13, vous voyez aussi qu'il y avait Antioche dans l'assemblée, que c'est de là, à partir de là, que naissent les ministères, que partent les ministères. Bon, on va le dire de toute façon. Mais c'est important de savoir, c'est important de souligner cela. On continue à lire. Donc, les écrits du frère Franck, ici, on continue. Nous voulons plus particulièrement faire ressortir les cinq ministères, les dons ou services. Voilà. Traditionnellement, on dit ministère, on sait ce que c'est les ministères. En fait, ce sont des dons, des services que Dieu nous donne de faire. Donc, on donne un service, on rend un service à Dieu. On fait des services dans l'Église. Traditionnellement, on dit ministère. Donc, et l'institution, donc la reconnaissance des anciens pour montrer le fonctionnement de ceci dans l'Église. Et selon Éphésiens 4, 11 et 12, Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ces cinq ministères sont destinés à édifier le corps de Christ et à conduire les saints à devenir habiles dans la pratique du service de l'Église. Donc, ces ministères sont destinés à édifier le corps de Christ, à conduire les saints à devenir habiles dans la pratique du service de l'Église. Donc, ça veut dire être soumis à la parole de Dieu. Là, ça c'est important, là où manquent ces cinq ministères, il ne peut être question de l'exercice de ce service, ni de l'édification du corps de Christ. Vous voyez ? Combien de choses ont été au commencement, tout a été bien, mais ensuite, après, tout s'est complètement a été détruit petit à petit, parce qu'il y avait ça qui manquait à l'Église du Seigneur, qui est en train de remettre à jour toutes choses et qui rafraîchit toutes choses. Donc je répète, donc le frère Franck écrit là. Où manquent ces cinq ministères, il ne peut être question de l'exercice de ce ministère, de ce service, ni de l'édification du corps du Christ. Donc toute l'Église ensemble, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 et 12, tout le corps du Christ en tire bénéfice. Tout le corps est édifié. Ça qui est important. Mais beaucoup ne se sont pas rendus compte de cela. Donc, je continue. Dieu a donné ces cinq ministères, dons ou services, à l'ensemble de l'Église, et c'est pourquoi il faut un appel divin, une vocation divine, parce qu'il faut bien distinguer, après on va le dire un peu plus loin, une vocation divine pour l'exercer. Donc une vocation que Dieu a mis dans la personne, dans le cœur de la personne, avant la fondation du monde. Il était déjà là. Et cette vocation est manifestée pour pouvoir l'exercer. Aucun apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ne peut être appelé ou élu par une église. Et ça, on l'a toujours dit. Ce qu'on a toujours dit, malgré les interférences des faux apôtres, des faux ministres, des faux docteurs, etc., etc. Dieu a toujours mis cette chose en première place. Donc, ils ne sont pas élus. Il est au contraire écrit, et lui a donné les ordres. Donc, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Indépendamment de ta volonté ou ma volonté. C'est Dieu qui le fait. On continue à lire. Dans l'Église du Nouveau Testament, nous trouvons d'abord le service des apôtres. Car le Seigneur leur a confié les mystères de sa parole. Tout ce qui avait été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, en ce qui concerne l'histoire du salut, nous le voyons s'accomplir au cours des âges de l'Église du Nouveau Testament. Et ça, c'est vrai. Les apôtres avaient une vue particulièrement pénétrante de l'œuvre de salut de Dieu. Et ils avaient reçu de lui la mission de communiquer à l'Église ce que le Seigneur leur avait donné. Ils avaient reçu de lui la mission de communiquer à l'Église ce que le Seigneur leur avait donné. Et Paul tenait en grande estime son ministère d'apôtre, au point qu'il se présentait toujours comme tel au début de ses lettres. Il faut distinguer une chose. Il y a un appel de Dieu, comme on l'avait vu. Donc, des appels divins et pour un service bien distinct. Donc d'abord, il y a des appels, par exemple 1 Jérémie, chapitre 1, 4. Il est dit, on peut le lire clairement, donc on parle des appels divins. On va, parce que c'est bien important de, voir cette, de faire cette distinction entre un appel et une vocation. Jérémie. Jérémie 1. Comme il est écrit, il a été destiné, Jésus a été destiné. Donc on va lire dans Jérémie 1, 4. Jérémie 1, 4, et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Vous voyez, c'est comme Jean-Baptiste, un appel direct, une commission directe, un mandat direct. Vous avez compris la distinction. C'est comme dans les Actes des Apôtres, par exemple. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous avait été destiné directement. Donc, c'est une chose qui devait arriver comme ça. Et ça, c'est totalement différent. Les mandats et les commissions liées au plan du salut, c'est totalement différent de dons dans Éphésiens. Alors, j'avais aussi noté Actes 22, 14. Acte 2, 22, 14. Voilà, j'avais bien noté ce passage. Donc, acte 22, 14, là c'est Paul, on parle de Paul. Et il dit, le Dieu de nos pères. Donc, c'est Ananias qui parle, hein, concernant Paul. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche. Voilà. Voilà, ici c'est un autre exemple. Vous voyez, c'est une différence. Voilà pourquoi il y a des frères qui, au fur et à mesure des années, Ils ont dévié de la vraie parole de Dieu. Ils ont commencé à dire, le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur m'a appelé. Mais le mot envoyé a une signification particulière. Donc, tandis que l'autre chose, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait des dons. Et jusque maintenant, il y a toujours eu cela. Sinon, l'Église elle-même ne s'édifie pas elle-même, comme ça, disons, toute seule. Donc c'est une importance capitale. Même si les frères ne se rendent pas compte, même s'ils ne l'admettent pas ou ne l'acceptent pas, Dieu travaille. Qu'ils ne le veuillent pas, Dieu travaille. Moi, je sais, c'est glorieux. Amen. Donc je continue à lire le frère Franck. Voilà, on est dans la page 20 en italien. Donc Paul tenait en grande estime son ministère d'apôtre au point qu'il se présentait toujours comme tel au début de ses lettres. Il écrivait aux Romains, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, une personne envoyée, commissionnée, voyez, envoyée, commissionnée, destinée. Comme vous voulez le dire. Et ça, c'est important que cette chose soit bien comprise dans nos cœurs, définitivement. Mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Dans 1 Corinthiens 1, il dit, Paul appelé appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, dans Galates 1 et dans Colossiens 1, il écrit presque les mêmes paroles. Dans Tite 1, il dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. » Donc lui, il s'annonce pour dire, avec ses paroles, pour dire, comment dirais-je, parce qu'il était de la pleine certitude, la pleine en connaissance de cause, comme on dit en français. Il savait bien la position qu'il avait reçue de Dieu. C'est un peu comme le frère Franck qui a reçu son mandat ou sa commission. Donc, le frère Franck écrit, il ressort de ses paroles que Paul ne mettait pas l'accent sur son service d'évangéliste. Attention, attention à ses paroles. Parce que un apôtre, il ne fait pas que évangéliser, mais il fonde. Il fonde. Il reste là jusqu'à ce qu'une assemblée naisse et soit fondée. Donc pas seulement il fonde, mais bien sûr qu'il apporte aussi l'évangile. Donc il ressort de ses paroles que Paul ne mettait pas l'accent sur son service d'évangéliste, mais bien sur sa responsabilité à l'égard de la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Si aujourd'hui un serviteur de Dieu se présentait au début de ses lettres ou au commencement de ses prédications, comme le fit Paul, nous aurions l'impression que ce n'est pas à sa place. Et c'est vrai. On aurait l'impression, quelque chose qui serait bizarre, mais pourtant, la parole de Dieu demande de discerner les esprits, de faire attention aux esprits, pour voir si réellement ils sont de Dieu. Et aujourd'hui, quand quelqu'un se présente d'une telle manière, attention, il y a des luttes, il y a des combats qui se font, mais c'est seulement Dieu qui peut confirmer, qui confirme sa parole. C'est mieux comme ça. Donc, cependant, Paul tenait pour convenable, conduit par l'Esprit de Dieu, de dire dès le début de ses lettres quel était son ministère et quelle était la charge que Dieu lui avait confiée. Ces faits font apparaître qu'en tant qu'homme de Dieu, il représentait et exposait le point de vue divin, ce qu'il développait sur l'histoire du salut. D'après la vision prophétique, était aussi obligatoire que la doctrine qu'il écrivait. Vous voyez, pas seulement la partie doctrinale, mais aussi le plan de Dieu, le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a fait depuis la Genèse, c'est le plan de Dieu pour la dispensation. Pour chaque dispensation, les ordonnances pour l'Église concernant le baptême, le repas du Seigneur, l'exercice des dons de l'Esprit ou l'institution, donc la reconnaissance ou l'identification des anciens dans l'Église locale, lui avait été révélé par Dieu. Vous lisez dans Corinthiens, dans Romains, vous avez beaucoup de passages et vous voyez que le Seigneur lui a révélé ces choses. Concernant cette reconnaissance ou cette identification des anciens. Tout ce qui a été établi dans l'Église du Dieu vivant. Et alors, le frère Franck continue. Dieu, le titre, c'est Dieu a établi. Donc, c'est à désigner ou à placer, à mis en place. Donc ici, c'est la juste position. C'est Dieu a désigné ou a placé. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, etc. » Nous voyons donc que l'Assemblée n'est pas fondée par des hommes, mais bien par Jésus-Christ. Pourquoi ? Même si c'était des hommes, des êtres humains, mais ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Pour fonder l'Église de Dieu. Voilà pourquoi l'Église n'est pas fondée par des hommes ou par des institutions. Donc la vraie Église est fondée uniquement par l'Esprit de Dieu. Sinon, ce sont des hommes. Et comme tous les hommes qui ont fondé des choses, tout ce qui a un commencement aura une fin. Tout ce qui a un commencement finira. C'est important. Voilà pourquoi il faut être vraiment, donc avoir cette perception, cette compréhension, cette assurance que c'est Dieu qui fait les choses et on le voit agir et pas les hommes. Sinon, c'est fini. Nous reconnaissons aussi, je continue à lire, que tout ce qui s'appelle Église du Seigneur ne l'est pas forcément. C'est vrai. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Hein. C'est juste. Ce n'est pas tous ceux qui se disent ceci, qui se disent cela. Ils commencent quelque chose et puis ils détruisent tout. Cet exposé biblique est donné afin d'aider chacun à s'éprouver soi-même pour constater s'il appartient réellement à l'Église de Jésus-Christ. Comme dans Éphésiens 4, 11, il est écrit ici que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, etc. Donc on voit bien que Dieu a établi dans l'Église donc des apôtres, prophètes, docteurs, etc. Et nous voyons que l'Assemblée n'est pas fondée par des hommes, mais bien par Jésus-Christ. C'est pourquoi, depuis la Genèse, même dans l'Ancien Testament, quand on voit la famille d'Abraham, ils se réunissaient pour faire les sacrifices. Bien sûr que tout le monde priait. Et puis jusqu'en Égypte. Donc, je veux dire, tout le monde était là. Donc, tous ceux, je continue à lire, tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ respectent l'ordre divin et reconnaissent le ministère d'un apôtre envoyé de Dieu, que ce soit celui d'un apôtre, d'un prophète ou d'un docteur. Donc, tous ceux qui sont dans le Christ, dans le corps du Christ, insérés dedans, ils reconnaissent et respectent cette vérité que Dieu a fondée par l'Esprit Saint, à travers l'Esprit Saint, et à travers des hommes que lui-même s'est choisi. Il a fondé. Ils font partie de l'Église. Ils reconnaissent, ils respectent l'ordre divin. Que ce soit le ministère d'un serviteur envoyé de Dieu, que ce soit un apôtre, un prophète ou un docteur. Apparemment, ça ne se voit pas. Mais c'est faux, c'est faux. Parce que c'est une réalité. Ils sont là et ça existe. Tout ce que Dieu a destiné à l'édification de l'Église, ceux qui font partie du corps de Christ, le prennent avec reconnaissance. Généralement, on reconnaît le ministère d'un pasteur ou d'un évangéliste. Bien sûr, ce sont ceux qui sont toujours sur la bouche de tout le monde. On entend toujours parler de la bouche des gens, pasteur tel, évangéliste tel, etc. Même dans les églises déjà dénominationnelles, il y avait toujours cette tendance-là à dire pasteur, pasteur ou évangéliste. Mais attention, ici, mais en ce qui concerne les trois autres ministères, cela paraît tout à fait différent. C'est comme s'ils n'existaient pas. Cependant, Dieu a jugé que ceci était nécessaire et il les a destinés à l'édification de l'Église. Nous lisons dans Actes 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Prenez dans vos Bibles Actes 13, 1. On avait lu. Donc on était resté dans Actes. Donc, on dirait que, en ce qui concerne les trois ministères, cela paraît tout différent. Cependant, Dieu a jugé que ceci était nécessaire. Il les a destinés à l'édification de l'Église. Et nous lisons donc dans Actes 13, 1, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et puis, les noms de ces serviteurs de Dieu nous sont donnés. Donc, comme on l'a lu, dans Actes 11, 25, on voyait la formation de l'Église, et puis après, on voit que cette Église était là, elle était là. Comme la nôtre ici, comme l'Église de Créfeld, n'importe quelle Église. Voilà. Une assemblée là. Et dans ce rassemblement, il y avait déjà, maintenant on peut le lire ici dans Actes 13, or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, donc des ministères principaux pour l'enseignement dans l'Église. Vous voyez ? Principalement pour cela. Donc c'était pour l'enseignement, l'enseignement, oui, des frères, des fidèles, des frères et des sœurs, voilà. Voilà pourquoi. Et on voit ici ces deux mots, prophète, docteur, bon, il n'y a pas d'autres ministères nommés. Bon. Et alors, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Remarquez qu'ils leur imposèrent les mains en signe d'accompagnement et non pour les établir dans leur ministère, car il y avait déjà longtemps que celui-ci avait été confirmé par Dieu. » Ça, on l'a déjà compris. C'est Dieu qui donne. Dieu le donne, cette prédestination. Voilà, on peut dire ça avec assurance. Parce qu'on a la révélation. Dieu nous a révélé la parole. Donc ça, c'est important. Donc, mettez-moi à part pour le Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, destinés, envoyés, si vous voulez. Je les ai envoyés. Et remarquez qu'ils leur imposèrent la main. Ça, c'est important à comprendre. Il y a une anecdote, une histoire dans l'église de Frère Branham, une fois. Vous pouvez le lire dans J'accuse cette génération, que Frère Branham a imposé les mains à des frères, et ces deux frères, bon, il a vu qu'ils avaient quelque chose. C'est pas que lui a donné ou des ministères, mais ils étaient déjà sur la course. Ils étaient déjà là avec ce don. Ils avaient ce don-là. Maintenant, précisément ce qu'ils avaient, on ne sait pas si c'était évangélisation, prophète, ça, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, il leur a imposé les mains comme accompagnement pour aller apporter l'évangile. Donc ça a été fait dans l'église des frères Branham, et ça a aussi été fait, des choses comme ça, dans l'église des frères Franck aussi. Mais donc c'est un signe d'accompagnement et non pour les établir dans leur ministère, car il y avait déjà longtemps que celui-ci avait été confirmé. Il dit au verset 4, Paul et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Vous voyez que ce n'est pas les hommes. Faites bien attention, ce ne sont pas des hommes. Les hommes étaient là des instruments, donc que ce soit des docteurs ou que ce soit des... Qu'on voit ces noms-là, Manahen, tous ces noms-là qu'on voit dans Acte 13 qui sont nommés. Donc, Barnabas, Simeon, Niger, Lucius, Manahen, etc. Ce sont simplement des instruments pour faire la volonté de Dieu. Donc, ils étaient déjà en place. Ils étaient déjà à l'action. Alors, voilà pourquoi il y a eu aujourd'hui, mais malheureusement encore aujourd'hui, c'est malheureux. Attention, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu doit nous faire grâce. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de gens qui se sont envoyés sans la confirmation de cet esprit. C'est vrai, vous avez compris ? Beaucoup sont partis sans avoir la confirmation de cet esprit, parce que la confirmation vient de l'Assemblée. La confirmation vient de là où il y a déjà quelque chose qui est institué par le Saint-Esprit. C'est de là que vient la confirmation. Vous allez voir un peu plus tard. Et voyez combien de départs, combien de gens qui sont partis dans toutes ces années qui sont passées. Combien de gens sont partis, je suis envoyé, Dieu m'a envoyé, alors qu'ils n'étaient pas envoyés. Même si le Seigneur a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, attention, il est écrit peu sont les ouvriers, attention. Pourquoi est-ce qu'ils sont peu? Vous comprenez? Regardez bien, réfléchissez, pourquoi il dit il y en a peu des ouvriers? Parce que beaucoup sont partis, beaucoup qui se sont cru quelque chose. Pourquoi? L'intelligence, je le dis encore aujourd'hui, et c'est enregistré et ça va rester. L'intelligence, ça vient de la bête, ça vient de la Genèse, de Genèse. La connaissance, ce type de connaissance dans le cerveau, c'est là. Il faut la mémoire, parce qu'il faut la mémoire pour mémoriser tout, pour enregistrer les passages bibliques, les versets, les citations. Il faut une bonne mémoire. Mais ça n'a rien à voir. Ceux qui restent là, ils n'avaient pas l'approbation. C'est les meilleurs des intellectuels qui restaient de l'Église, c'est ce qui s'est passé partout. Il faut le dire avec franchise et assurance. C'est encore maintenant, aujourd'hui, la même chose. On voit qu'il y a toujours ce type de personnes qui sont encore en circulation. Ils sont toujours en circulation. Mais le Seigneur fera grâce, confirmera, comme on l'a lu, qui sert et qui ne sert pas le Seigneur. Qui vraiment se trouve sous la guide du Saint-Esprit et qui, sous la guide de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine, ils veulent s'envoyer eux-mêmes et ils vont de l'avant. Et c'est là qu'il y aura quelque chose de terrible. Donc il y a beaucoup d'envois, mais aucune confirmation par le Saint-Esprit. Et c'est quoi la confirmation du Saint-Esprit? On l'a lu. On était à Lausanne une fois. Je vous raconte. Une fois, on était à Lausanne. Cette lettre de 1972, c'est exactement quand le Seigneur m'a fait grâce de m'appeler à venir à la foi, au salut, à la parole de Dieu. Et c'est de là que nous avons commencé. Et le Seigneur a fait cela. On a commencé à apporter la parole de Dieu en Italie. Avant même frère Genton et tous les autres, en Belgique, etc., etc. Après, il y a eu, et puis on a continué, et tout a continué comme ça, etc. Mais je dis cela devant le Seigneur pour confirmer. Vous voyez, il doit y avoir une confirmation qui vient, quoi qu'il arrive dans une église, quoi qu'il arrive, mais il faut là une confirmation dans l'église locale, là où a été instituée cette bénédiction particulière pour commencer l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé et continué l'œuvre de Dieu. Voilà, je continue à lire le frère Franck ici. C'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. D'hommes de Dieu dont l'appel et le ministère aient été révélés et confirmés dans l'Assemblée avant qu'ils ne puissent s'en aller. Amen. Vous voyez ? C'est important. Faites attention. Combien de chutes, combien de désastres, combien de destruction de cœur il y a eu à cause des faux frères, à cause des faux frères qui s'envoyaient eux-mêmes avec leur fausse prise de position. Parlons de la Sicile, parlons partout. Oh, moi j'ai envoyé la voix, moi j'ai entendu la voix de Dieu à voix audible. Oh, moi j'ai entendu la voix audible, Dieu m'a envoyé la voix audible. Mais c'est faux. Vous savez, à l'époque du frère Franck, quand il disait il faut savoir l'heure, le jour, etc. Et tout le monde a commencé à retourner dans le temps pour essayer de retrouver les heures, les jours, les dates dans le calendrier. Vraiment, il y avait une grande confusion. Et c'est de là qu'on voit comment Dieu nous a fait grâce de résister à toutes ces attaques. Dieu nous a fait vraiment grâce à cette assemblée. Dieu a fait grâce de résister à toutes ces interprétations, toutes ces bêtises. Parce qu'on a vraiment été attaqués de tous côtés. On a vraiment été attaqués, c'est vrai. Donc je continue à lire. Donc j'avais noté ici. Voilà là où réside la clé, ou l'assurance si vous voulez. L'assurance qu'il y a une personne qui a vraiment été placée par Dieu. Donc c'est comme le frère qui pose la question au frère Franck. Comment est-ce qu'on sait si on sait le Seigneur? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître, etc. Donc quel est le devoir dans le règne de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les anciens, etc. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir s'il est appelé à prêcher? Quel est le devoir dans le règne de Dieu, etc. Ce sont des questions importantes. Donc je continue à lire. Donc cette lettre circulaire, elle a été écrite en 1972, il y a 48 ans. Et cette lettre circulaire, vous l'avez, 1972, les ministères dans l'Église de Dieu. Vous pouvez relire ça à la maison. Je continue, et frère Franck dit « Aujourd'hui ». On entend souvent dire « Nous avons Christ, et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'apôtres ni de prophètes. » Donc là, veut-on dire par cela que l'Église primitive n'avait pas Christ et que c'est la raison pour laquelle Dieu avait établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc.? Veut-on dire que l'Église d'Antioche n'avait pas Christ parce que là-bas des prophètes et des docteurs s'acquittaient de leur ministère sous la direction du Saint-Esprit? C'est le contraire qui est vrai. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est le contraire. Chaque église qui aura véritablement Jésus-Christ aura également, faites attention, soulignez cela, chaque église qui aura véritablement Jésus-Christ aura également les services, donc traditionnellement appelés ministères, les services en son sein, en son milieu, en son sein. C'est important. Ils sont là. Il y en a qui disent, ah, ils doivent être révélés, ils vont être révélés après quand il y aura la pluie. Ah non, sans, c'est faux. C'est quelque chose qui est complètement satanique, diabolique. La folie totale, une fausse doctrine totale. On peut le dire avec franchise. On continue. Chaque église qui aura véritablement Jésus-Christ en son sein aura également les services en son sein. Le service d'un apôtre consiste en grande partie à aller sur le champ de mission, non seulement pour y prêcher l'évangile, comme c'est le cas pour les évangiles, mais aussi pour rester à un endroit jusqu'à ce qu'une église prenne naissance. Regardez avec Paul. Paul est resté là une année, là, deux ans, là, etc. Et ils donnaient naissance à des assemblées. Fondées par le Saint-Esprit, toujours. La naissance vient du Saint-Esprit. Pour rester dans un endroit, donc, le service d'un apôtre consiste en grande partie à aller sur le champ de mission, non seulement pour y prêcher l'évangile, comme c'est le cas pour les évangélistes, mais pour rester là à un endroit jusqu'à ce qu'une église prenne naissance et que les anciens puissent y être établis. Le service d'un apôtre. Donc, on va lire dans... On connaît ces choses, on va lire... C'est dans Actes. Je crois que le frère a lu, il a lu le tout dernier chapitre, le tout dernier verset de Actes, je crois qu'il a dit. Et Paul demeura dans le, donc Actes 28, 30. Actes 28, 30. Et Paul demeura 2 ans entiers dans un logement qu'il avait loué pour lui. Et il recevait tous ceux qui venaient vers lui, prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute hardiesse et sans empêchement. Je crois qu'il a lu ça. Et voilà ce que fait un apôtre. Il donne naissance à une assemblée, à des assemblées. Donc, c'est pourquoi, sans ces ministères, l'Église va de travers. Donc c'est comme on peut dire que ces ministères maintiennent le contrôle de la volonté de Dieu. Et ça, il faut croire, ça. Vous devez croire. Vous comprenez? Est-ce que vous écoutez? Vous comprenez? Enregistrez bien cela. Sinon, donc il ne faut pas lire en vain. Il faut bien comprendre. Donc le frère Franck écrit, le service d'un prophète, de l'Église du Nouveau Testament, consiste à exposer la parole prophétique à l'Église du Seigneur selon sa signification divine. Selon sa signification divine. Dans 1 Corinthiens 14, 29, Paul écrit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Et ça, c'est vrai. Ça, on le sait, on le connaît. Que ce soit une bénédiction pour tous ceux qui vont écouter. Pourquoi, frère Franck dit, pourquoi la Bible donnerait-elle pareille information si Dieu n'avait pas eu l'intention de conduire pratiquement son peuple à travers les ministères prophétiques? Il est clair qu'il ne s'agit pas ici du don de prophétie. Nous le voyons par le contexte. Car il est écrit, si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Mais jamais pendant une prophétie, quelqu'un peut être interrompu. Là, on parle de dons ici. Mais jamais pendant une prophétie, quelqu'un peut être interrompu. Une prophétie est une parole venant directement de Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Paul dit au verset 6, « De quelle utilité vous serais-je si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Donc ça, on l'a déjà compris. La plupart se représentent seulement le prophète comme prédisant des choses à venir ou révélant des choses présentes qui concernent l'Église. Vous voyez encore, il y a une confusion là dans le peuple de Dieu. Ou révélant des choses présentes qui concernent l'Église. Cependant, le service prophétique se révèle dans le Nouveau Testament de diverses manières, particulièrement lorsque la parole prophétique est communiquée à l'Église, sous la direction et par la révélation du Saint-Esprit. De la façon correcte, on trouve souvent, allié étroitement, le service d'apôtre, celui de prophète, et celui de docteur. Donc, on ne peut pas les séparer. Dans 2 Timothée 1, 11, Paul écrit, « J'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des nations. » Vous voyez comment ça va ensemble? Tous ces trois ministères qui sont unis ensemble. Donc au verset 13, il dit, voilà, on va un peu plus bas. Comme nous venons de le mentionner, le service de docteur est étroitement lié à celui de l'apôtre et du prophète. Un docteur n'a pas la tâche du prophète, qui est de présenter la partie prophétique et historique du salut, mais il lui est donné d'exposer en détail ce qui a été révélé de Dieu par le ministère prophétique et de l'enseigner à l'Église. Donc ce ministère de docteur, le ministère de docteur qui a été donné au frère Franck, c'est quelque chose qui va ensemble, qui colle avec la prophétie, la parole prophétique, avec le plan de Dieu. Voilà pourquoi il a pu mettre en place, à leur juste place, les choses qui ont été prêchées par le prophète. Parce que Dieu ne peut pas envoyer son jugement avant qu'il ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Les prophètes sont envoyés de Dieu pour un but bien précis. Et à chaque âge, il y a eu des messagers, des anges, qui sont venus à chaque âge. Donc tout dépend initialement de ce que Dieu veut révéler, de ce que Dieu fait. Et tout le reste suit les choses que Dieu a dites. Donc il faut évidemment l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Je continue. Donc un docteur prend en considération tous les aspects de l'enseignement biblique qui concerne l'Église. Le service d'un évangéliste nous est mieux connu. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, pasteur, évangéliste, c'est les mots qui reviennent tout le temps. C'est ceux qui sont le plus connus. Ceux qui sont le plus souvent prononcés dans les bouches. Cependant, nous prendrons l'évangéliste Philippe d'Actes 8 pour nous servir d'exemple. Un évangéliste est un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, qui proclame l'évangile de Jésus-Christ avec dynamisme et dont le ministère est confirmé d'une manière toute particulière par des signes, des miracles et la guérison des malades. Comme les quatre autres ministères, celui du pasteur n'est pas limité à une communauté locale, mais il s'étend sur l'ensemble de l'Église du Seigneur. Celui du pasteur n'est pas limité à une église locale, mais il s'étend sur l'ensemble de l'Église du Seigneur. Et pourtant, il a une responsabilité. Le pasteur porte la responsabilité de la bonne santé de l'Église. Un pasteur établi de Dieu sait quelle nourriture spirituelle le bon berger a prescrite pour ses brebis. Donc ça, il faut bien le comprendre, le rôle. Donc maintenant, établissement ou désignation des anciens. Désignation des anciens. Presbyteros. Les gens anciens. Dans l'Église du Seigneur, les anciens ne sont pas établis par une élection à majorité, donc pas par un vote, mais bien par les apôtres ou par les serviteurs de Dieu désignés par eux. Paul et Barnabas sont un bon exemple de cela. Nous lisons dans Actes 14, 23. Donc on les connaît, mais on les lit. Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée. Donc en grec, exprimer un accord ou une approbation en étendant la main, choisir ou désigner. Les anciens, dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Dans Tite 1, 5, Paul écrit, je t'ai laissé en crête dans ce but que tu mettes en ordre, en bon ordre, les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses ou désignes, tu désignes des anciens, suivant que moi je te l'ai ordonné. Et les évêques, donc les épiscopos, les surveillants, font aussi partie des anciens, car ils sont, comme plusieurs traductions le rendent, surveillants de l'Église. Surveillants. Voilà, les surveillants font partie des anciens. Donc vous avez lu tout ce qui concerne, on l'a étudié tout ce qui concerne le nicolaïsme. Un ancien, c'est toute personne âgée. Et parmi les anciens, il y en a qui demandent la surveillance, qui aspirent à la surveillance. Donc, il y a, si je parle d'un esprit du pasteur, donc je parle pas de cette. Donc, un esprit d'un vrai berger dans le sens de nourrir. Nourrir et prendre soin. Donc on lit cela. Ainsi, ce mot, surveillant, épiscopos, n'a pas la signification qu'on lui donne aujourd'hui si souvent. Un évêque est un surveillant, ou celui qui préside une assemblée locale, où il peut présider. Et il fait partie des anciens. C'est quand un frère est ancien qu'il pourra aspirer à la surveillance. Celui qui pense que la compréhension actuelle du terme d'évêque ou surveillant est juste, qu'il se souvienne toutefois que dans l'église de Philippe, il y avait plusieurs évêques surveillants. Nous le lisons dans Philippiens 1:1. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une, la chose, c'est l'homme, et puis il y a le service. Il y a un homme qui peut être vieux, qui peut être ancien, qui peut être mature, et puis il peut surveiller, mais c'est la même personne, c'est pas deux différents. Donc, c'est une tâche. Donc, là, c'est la personne, et l'autre, c'est le service de surveiller, de prendre soin, de prêcher, etc. Voilà. L'ancien, c'est la personne mature. Presbyteros, un ancien mature. Et nous lisons cela dans Philippiens 1:1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, les surveillants, et aux diacres, les serviteurs. Nous voyons ainsi que dans une église locale, il y avait plusieurs évêques, des surveillants. Ces évêques faisaient partie, étaient des anciens, faisaient partie des anciens de l'église. Dans 1 Timothée 3:1, nous lisons ceci. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire à la surveillance, il désire une œuvre excellente. Depuis le verset 2, nous sont décrites les vertus et les facultés requises pour un ancien. Il doit être sans reproche et bien diriger sa propre maison. Il ne doit pas être un nouveau converti et il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut qu'il soit honorable, réglé, dans sobre, honorable ou sobre, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement et apte à enseigner. Donc toutes les caractéristiques particulières d'une personne que quelqu'un qui veut survivre doit avoir. Même si malgré tout, ce n'est pas des gens qui votent ou qui font les élections, mais malgré tout, il doit avoir ces caractéristiques dans son cœur, et c'est nécessaire qu'il les cultive continuellement. Voilà. Qu'il se donne à cette chose-là, cette tâche. Sinon, il peut s'éloigner du but. Il s'éloigne du désir de Dieu, de la volonté de Dieu. Et alors, comment est-ce qu'il pourra communiquer après l'Église? Parce qu'eux-mêmes doivent être des exemples, hein, comme il est écrit aussi. Donc, frère Franck écrit aussi, car de même qu'un docteur établi par Dieu, faites bien attention, car de même qu'un docteur établi par Dieu pour l'ensemble de l'Église en est responsable, ainsi le sont aussi les anciens pour l'Église locale. Et ils doivent être capables de lui exposer la doctrine biblique. Dans 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13, Paul écrit « Or, nous vous prions, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Donc j'aimerais bien lire dans Hébreux. Aussi, on a lu 1 Thessaloniciens 5:12, j'aimerais aussi lire dans Hébreu. Il y a encore d'autres passages, attention. Hébreux 13, 7. Hébreux 13, 7. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous annonçaient la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Donc il est aussi écrit qu'il ne faut pas mettre la muselière au bœuf qui fout le grain, donc on connaît ce passage. Donc je continue à lire. Frère Franck écrit, c'est la position juste et nécessaire dans une église locale. Elle ne peut faire reposer sa confiance uniquement sur les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, mais elle doit aussi avoir pleine confiance dans les anciens et les évêques surveillants de l'Église. Les surveillants de l'Église. C'est seulement ainsi que la paix et la bénédiction sont garanties dans l'Église. Ce sont des enseignements très profonds, importants. Dans 1 Timothée 5, 17, il est écrit que les anciens qui dirigent, qui président en fait, qui se mettent devant, soient bien jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. C'est un ordre du Seigneur et il doit être observé afin que les anciens accomplissent leur service avec joie. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront exercer le service de prédicateur et d'enseignant avec une pleine consécration. Et c'est précisément à l'égard des anciens que Dieu a ordonné une protection toute particulière lorsqu'il dit par Paul au verset 19 « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » Ça, on en a déjà parlé. Comme l'Église ne peut pas se passer des ministres, ainsi aussi l'Église locale. Donc c'est moi, Frère Franco, qui l'avait noté. Et aussi l'Assemblée locale aussi ne peut pas faire fonctionner sans des anciens. Vous comprenez? Amen. Vous y êtes? Donc vous voyez le rapport? Voilà pourquoi Dieu dit, reconnaît des anciens parmi ces hommes de Dieu. Dans l'assemblée dans chaque assemblée, qui puisse continuer la même œuvre, la même doctrine, les mêmes choses, qui puisse continuer l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre appartient à Dieu, c'est à Dieu. L'Église appartient à Dieu, c'est à Dieu. C'est Dieu qui doit gérer. Amen. C'est important. Voyez combien de fausses doctrines dans le passé. Ah, ça, ce sont mes brebis. Elles sont mes brebis, ne touche pas mes brebis. Ce sont mes brebis à moi, ne les touche pas. Vous comprenez, c'est grave. Vous comprenez, il y a 48 ans, il y a encore maintenant, aujourd'hui encore. Comment des gens peuvent être, entre guillemets, jalouses de leurs brebis, comme si c'était vraiment leurs brebis à eux. Mais ils ne se rendent pas compte que ce sont les brebis du Seigneur et qu'elles appartiennent à Christ. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. C'est très important. Ah, ce sont mes brebis. Voyez la jalousie. Et au fond, c'est que la jalousie. C'est la même jalousie qu'il y avait dans le jardin d'Éden, avec Caïn et Abel. Et ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a encore cet esprit. Les Caïnites, un esprit Caïnite, je l'appelle comme ça. Je le dis tout mon cœur, je ne blague pas. Il y a vraiment un esprit de jalousie. Et si cet esprit de jalousie ne s'en va pas du milieu de l'Église, il y aura toujours cette influence, cette impulsion du diable. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour être restauré, pour porter du fruit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça sera difficile, mais c'est comme ça. Ça, c'est important à dire. Donc, 1 Timothée 5, 17, il est écrit que les anciens qui président soient bien jugés, dignes de double honneur et surtout ceux qui travaillent à la prédication. Et ensuite, au verset 19, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Vous savez que l'on a toujours trouvé facilement quelque chose à dire contre ceux que Dieu a établis et qu'il emploie pour la bénédiction de l'Église. Personne ne devrait recevoir une parole désavantageuse sur un ancien, si ce n'est qu'il l'entend de la bouche de trois témoins tout à fait indépendants. Tout à fait indépendants. Cela n'a aucune valeur si trois personnes se concertent pour apporter une accusation. Il faut que ce soit trois témoins indépendants qui ne se soient pas concertés auparavant. Le mieux serait que cette règle fût observée. Le frère Franck écrit cela. qui met la cerise sur le gâteau. Le mieux serait que cette règle fût observée par l'ensemble de la communauté. Ainsi, tous les bavardages de couloir seraient bien vite terminés. Je vous propose que si une plainte vous est faite contre un frère ou une sœur, vous ne la receviez qu'en présence de ceux-ci. Personne ne devrait entrer en conversation à ce sujet sans accorder aussitôt la possibilité à l'accusé d'exprimer sa défense. Ça, on en a déjà parlé aussi. On l'a déjà lu. C'est une vérité biblique. Et c'est pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être des cœurs, pour la paix de l'Église. Donc je ne vais pas lire, mais ça vous le trouvez dans Matthieu 17 et Deutéronome 19. Donc c'est pour dire que comme c'est dans l'Ancien, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Dans 1 Timothée 4, 13, Paul écrit... Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Puis il exhorte son compagnon d'œuvre à exercer le don qu'il a reçu de Dieu. Il ressort du contexte que Timothée avait reçu ce don avec l'imposition des mains des anciens. Il est écrit au verset 14 et 15, « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. » Avec l'imposition des mains du corps et du collège des anciens. Vous voyez ? Le collège des anciens. Parce que là aussi, l'ensemble des frères anciens, dans une communauté, il peut y avoir... Donc c'est pas, on ne parle pas que de... Des dons apôtres, prophètes, etc. Mais ce sont les anciens. Mais aussi, s'ils ne sont pas là, c'est bien des gens envoyés. Donc, par exemple, Timothée, et même aussi, des fois, par prophétie aussi. Comme dans les Actes des apôtres. Il y a aussi les prophéties. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, etc. C'est aussi des prophéties. L'Esprit parle. Et ça aussi, la prophétie se met en action. Et la même chose ici avec Timothée, dans ce qui est écrit. Donc on ne parle pas des apôtres, des prophètes, on parle du collège des anciens, du corps des anciens. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier. Et eux aussi sont des hommes de Dieu. Eux aussi, hein, ce sont des hommes de Dieu. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier. Afin que tes progrès soient évidents à tous. Pour terminer, il donne cette sérieuse exhortation, sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses. Paul attachait de grande valeur à ce que ses compagnons d'œuvre tiennent attention. Attention, faites très attention. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur ici pour moi. Paul attachait une grande valeur à ce que ses compagnons d'œuvre tiennent au même enseignement qu'il avait reçu du Seigneur. Compagnons d'œuvre, ce ne sont pas... Comment dire, inférieurs ou soumis à eux, à lui, non. Ce sont des compagnons d'œuvre. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cela. Ce sont des compagnons d'œuvre. Et chacun a sa place dans le corps du Christ. Ce sont des compagnons. C'est important. Donc Paul attachait une grande importance à ce que ses compagnons d'œuvre tiennent au même enseignement qu'il avait reçu du Seigneur. Matthieu 24, 45, vous voyez ? Le même enseignement reçu du Seigneur par le ministère de Frère Franck. Voilà pourquoi beaucoup, en interprétant mal ce que le Frère Franck dit, et évidemment, ils dévient et ils construisent des nouvelles doctrines. Ils font des nouvelles doctrines sur base de ce que Frère Franck dit. Et ils croient que pour eux, ce sont des réalités. Mais que Dieu fasse grâce. Le même enseignement que lui avait reçu du Seigneur. Est-ce que vous pensez Et le frère Franck parle avec clarté. L'église a été restaurée. Le message est venu pour restaurer l'église. Le dernier message. Tout a été restauré. Tout a été remis à sa place. L'unique chose, c'est que moi, est-ce que moi je veux y être mis dedans? Est-ce que toi, tu veux y être dedans? Mais tout est déjà là. Tout est déjà fait. Mais plus tu le désires, plus Dieu travaille dans ce sens avec toi. Mais pour confirmer sa parole de ta vie, dans ma vie, et pour mettre en place la préparation totale pour l'enlèvement, pour notre enlèvement. Amen. Le même enseignement qu'il avait reçu du Seigneur. Après que les anciens aient été établis par les apôtres qui ont fondé cette communauté, ils portent la responsabilité devant Dieu de continuer à donner cet enseignement sans erreur. De continuer à donner cet enseignement sans erreur, sans les propres pensées. Parce que quand les propres pensées viennent, et si elles s'insèrent là-dedans, elles se mettent entre Dieu et les hommes. Et entre Dieu et les hommes, il ne doit y avoir que Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. C'est juste? Amen. Seulement Jésus-Christ, la parole faite chair. L'unique intermédiaire que nous avons entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Amen. Voilà, comment dire, notre but, notre course. Donc, nous voulons être exactement comme Dieu veut que nous soyons. Leur tâche et leur responsabilité est plus grande qu'on ne le pense, généralement. Vous voyez, on parle des anciens, hein? On parle des anciens. Leur responsabilité est plus grande, parce que s'ils sont hors de leur place, s'ils sont à côté de la plaque, même toute l'Église sera comme ça. Toute l'Église suivra le même exemple. Parce que l'interprétation va rentrer aussi des esprits différents, des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Et petit à petit, cet esprit va manger, comme avec la locuste, la sauterelle, etc. Et au lieu de restaurer, c'est le contraire. Il va commencer à déranger et à ronger. Et l'Église ne grandit pas, l'Assemblée ne grandit pas. Et les cœurs n'arrivent pas à la réalité divine. Dieu a fait cela. Afin que les cœurs arrivent à une relation divine personnelle. Lors d'un voyage de Paul, il fit appeler les anciens de l'Église. Nous en trouvons le récit dans Actes 20, 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Paul n'invita point les apôtres, les prophètes et les docteurs, mais il fit venir à lui les anciens de l'Église d'Éphèse. On peut lire tout le chapitre pour voir de quelle manière il parla aux anciens. Mais nous citerons le verset 27 où il nous est dit: « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque surveillant pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Remarquez qu'au verset 17, les frères sont appelés anciens, mais qu'au verset 18, ils sont appelés aussi évêques, les surveillants. C'est juste, des surveillants, épiscopos. Paul disait, c'est vous qui devez surveiller parce qu'il y a des loups. Mais vous connaissez ce passage-là. Des loups, voraces, viendront après parmi vous et vous détruiront le troupeau. Vous comprenez? Que Dieu vraiment fasse grâce. Il nous a fait grâce. Il est tout à fait indispensable de reconnaître que les anciens ne sont pas élus par un vote de l'Église, mais qu'ils sont bien placés comme surveillants par le Saint-Esprit. Les anciens ont également la tâche de prier pour les malades faisant partie de l'Église, alors qu'un évangéliste comme Philippe à Samarie peut prier pour tous ceux qui viennent à la réunion. Faites attention, il y a une différence. Combien d'erreurs aujourd'hui? Même les églises locales font encore les mêmes erreurs maintenant. Ils reçoivent des visites. Combien de choses mauvaises sont arrivées? Et il y en a peu qui ont pu prendre leur position avec une bonne connaissance des Écritures, une bonne connaissance de la doctrine, et ils ne sont pas arrivés à dire comment étaient les choses, comment devraient être les choses. Ce qui est écrit ici, c'est ça. Moi, j'ai assisté dans les années 80 à Zurich à quelque chose qui était à côté de la parole, qui est à côté. Un évangéliste de dehors est venu, de l'extérieur, il est arrivé et il a fait des choses terribles. Mais par la grâce de Dieu, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le frère Franck est resté calme, il a dit laisse-en faire. Il a laissé faire. Mais il y avait quelque chose qui n'était absolument pas à sa place. Mais allons de l'avant. Donc c'est important. Il est écrit dans Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient avec lui, prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc la première chose importante, c'est d'avoir vraiment la position dans le cœur que Dieu a établi cette chose-là. Que c'est Dieu qui a fait une chose, telle chose. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui a fait la chose. Alors vous verrez un changement qui viendra vite dans les cœurs. Quand il y a une prise de position, une assurance nette qui vient, quand on sait que c'est Dieu qui a fait la chose. Et ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui fait. Il faut être sûr de cela. Et alors là, il y a les signes et les miracles qui s'accomplissent. Parce que là, on prie avec foi et avec en connaissance de cause, parce qu'il y a cette prise de position pour Dieu. Nous pouvons retirer de ces paroles, comme nous l'avons déjà fait ressortir plus haut, que les croyants d'une communauté n'ont pas à accorder leur confiance à ce sujet à un évangéliste de passage. Là, c'est clair. Mais qu'ils doivent l'accorder aux anciens de l'église locale, qui sont toujours disposés à prier avec les malades. Ce sont eux qui se fatiguent. Ce sont eux qui connaissent les cœurs, qui connaissent les personnes, qui connaissent les brebis de leur bergerie, disons. Mais ils savent ce qui se passe parmi eux. Mais les gens de dehors ne savent rien du tout. Les gens de dehors, c'est pour la masse, pour la grande masse, qui peuvent venir. Donc il peut y avoir des miracles, etc. D'accord. Sinon, ce n'est pas à eux de faire cela. Il serait à conseiller que tout enfant de Dieu relise encore une fois attentivement et dans la prière chaque passage de la Bible qui traîne de ce sujet, afin que nous puissions expérimenter à nouveau dans l'Église du Dieu vivant les résultats bénis après lesquels nous soupirons depuis si longtemps. Amen. Vous voyez ? Quand on prend sa place et sa position. Vous voyez ce qui se passe? Comment est-ce que moi je vais prêcher sans avoir été placé par Dieu ou pris par Dieu? Comment est-ce que je peux persuader les gens? Comme on l'a lu nous-mêmes ici. Comment je peux avoir ce sens de persuader les gens afin que les gens viennent à la foi, à l'authentique parole de Dieu, si Dieu n'a pas déjà fait un travail avec moi intérieurement, dans mon cœur intérieur. Il est écrit dans Hébreux 13, 17, « Obéissez », donc littéralement, « Laissez-vous persuader par vos conducteurs ». Donc littéralement, « Laissez-vous persuader par vos conducteurs » et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Pierre écrit dans 1 Pierre 5, 1, 4, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage. Yeshua partage une portion du peuple, mais en étant les modèles du troupeau. C'est ça qui devait être. C'est ça qui devait y avoir dans les assemblées locales, être le modèle du troupeau. Un modèle dans l'esprit, pas charnellement, dans l'esprit spirituel. La doctrine, dans la vérité biblique, absolue. Parce que quand Jésus parlait avec autorité, pourquoi? Parce qu'il savait, il savait qui l'avait envoyé, il savait ce qu'il faisait, il savait ce qu'il disait, que ce qu'il disait était le « ainsi dit le Seigneur », c'était la parole. Amen. C'est ça dont nous avons besoin. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Incorruptible. Un petit détail que j'aimerais faire ressortir ici. Pierre, il dit qu'il est apôtre, mais il est aussi ancien dans les assemblées locales, il est aussi un ancien. Donc dans les assemblées locales, comme aussi à Krefeld, il y a non seulement des anciens, mais il y a aussi un mandat de commission que Dieu a envoyé à travers le frère Franck, via l'homme frère Franck. Il y a aussi un serviteur de Dieu. Mais malgré tout, il a aussi de l'ancienneté, de l'expérience, de la maturité. Pas seulement parce qu'il est vieux, parce que Dieu l'a aussi établi dans l'Assemblée. Vous avez compris? Est-ce que c'est biblique ou pas biblique? Sinon, il fait quoi là? Vous voyez? Que Dieu nous fasse grâce. Pierre, en tant qu'apôtre, se considérait également comme responsable de l'église locale, au même titre que les anciens. Pierre, en tant qu'apôtre, se considérait également comme responsable de l'église locale, au même titre que les anciens. Car l'église est constituée de toutes les assemblées locales. Attention, le corps du Christ, l'église, le corps du Christ avec le grand E, et puis il y a des petites assemblées, des petites moyennes, mais toutes ensemble, unies dans la même parole, dans le même esprit, dans le même enseignement, forment l'église de Dieu vivante, celle que Dieu enlèvera quand il viendra. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas nécessaire de rester dans un seul lieu, c'est-à-dire c'est pas nécessaire de tous se réunir dans un même endroit physique. Il y en a qui ont mal compris. Par exemple, avec Frère Branham, par exemple, tout le monde voulait tous se déplacer et déménager à Jeffersonville, où il y avait le Frère Branham qui prêchait. Vous vous souvenez de ça? Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas les choses par l'esprit. Ils n'ont pas compris par révélation de Dieu dans nos cœurs. Donc, c'est pas le lieu, c'est la position spirituelle que toi et moi nous avons devant Dieu. C'est ça qui compte. Donc, on continue à lire. Le frère Franck écrit, Pierre, en tant qu'apôtre, se considère également comme responsable de l'église locale au même titre que les anciens, car l'église est constituée de toutes les assemblées locales. Tout ce qui arrive dans l'église du Dieu vivant, que ce soit par les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes ou les anciens et évêques, tout s'accomplit dans une harmonie divine avec la tête Jésus-Christ et en relation les uns avec les autres. Je suis bien conscient que ce thème, c'est vrai, ça je l'écris moi, n'a été qu'effleuré, mais je souhaite que par cela, tous soient stimulés à se plonger plus profondément dans ce sujet. Tenons-nous fermement au fait que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation humaine ou un credo dans lequel on puisse rentrer comme on devient membre d'une société mondaine. Non, elle est une institution divine, un organisme vivant. Chaque membre de l'Église est né de nouveau par l'Esprit de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 12, 12. Et rempli du Saint-Esprit afin d'être placé sous la direction de l'Esprit. La vraie Église du Seigneur ne connaît aucun membre passif. Amen. Donc j'ajoute que même dans l'Église locale, avec des, qui est sous la surveillance des anciens, comme on l'a lu, une assemblée est sous la surveillance de surveillants, d'anciens qui aspirent à la surveillance. Et voici, nous avons donc, il y a encore un petit, je ne sais pas si on a déjà lu ça, la foi biblique, je ne sais pas si on a lu la foi biblique, je ne sais pas si... Est-ce qu'on a lu ce passage? Sinon, on le lit la prochaine fois peut-être, la foi biblique. Donc, c'est l'extrait de janvier 1973. Bon, la prochaine fois, on va finir ce passage du frère Franck sur de l'extrait de la circulaire de janvier 1973. On va arrêter ici. Sinon, ce sera trop tard. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. Voyons comment le Seigneur se révèle à nous. Que Dieu bénisse nos cœurs. Je crois que cette chose a été bien éclairée. Donc que Dieu bénisse nos cœurs. On a bien fini cet enseignement et qu'il nous fasse bien comprendre les erreurs. Qu'il nous fasse comprendre que les erreurs du passé, on ne les refasse plus. Mais qu'au contraire, qu'on puisse toujours s'édifier, toujours plus dans l'esprit de vérité, toujours plus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier un instant et remercier le Seigneur. Donc, nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons laisser les choses tranquillement. Et ensuite, celui qui veut rester, il peut rester. Mais ici, disons, la partie de la réunion est terminée, mais il y en a qui peuvent rester aussi s'ils ont des questions ou des choses comme ça. Mais ceux qui doivent travailler pour demain, bien sûr qu'ils peuvent rentrer, qu'ils peuvent quitter. Merci. Qui remercie le Seigneur pour ce qui a été dit maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Père Céleste. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et à travers elle, tu peux nous affiner, tu peux nous rendre parfaits. Parce que la parole a été envoyée. Et tu prépares une épouse, une église sans tache, sans ride, sans tache, irrépréhensible. Ce que nous écoutons, Seigneur, nous purifie, nous sanctifie toujours plus, parce que ta parole est pure, cette fois épurée par le feu. Elle a été donnée, comme on l'a déjà dit, pour nous rendre vraiment parfaits devant ta face. À toi va toute la gloire, Père Céleste. Merci pour les frères et les sœurs qui écoutent cette parole avec amour, avec désir. Merci de nous donner la paix et la joie dans nos âmes. Renforce ton assemblée. Mets en place et mets à sa place chacun d'entre nous pour servir et servir à ta gloire. parce que la gloire va seulement à toi. Aucun homme n'a pu se prendre la gloire lui-même. Mais toi, tu es celui qui va prendre toute la gloire. Toi qui as créé le ciel et la terre. Nous te remercions, Seigneur, pour ce soir. Bénis chaque sœur, chaque frère, comme tu l'as déjà fait, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen.